pierdere coronea partidei. Delgado acolo este
Lettre romande avec Julien Sansonnens.
Bienvenue dans Lettres romandes, le podcast consacré à la littérature sous toutes ses formes, en Suisse romande et ailleurs. Aujourd'hui, nous recevons l'écrivain Quentin Mouron. Alors, Quentin Mouron, ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ?
Oui, alors l'exercice est toujours aussi périlleux, même après 4 ans que je sévis dans le milieu littéraire, mais... Je suis un écrivain canado-suisse, né en 89, originaire du canton de Vaud, et que j'ai publié pour l'instant, puisque l'auteur, à mon avis, se définit quand même en partie par ses publications, plus que par d'éventuelles prises de position. J'ai publié donc 3 livres aux éditions Olivier Moratel, dans l'ordre en 2011, le Point d'effusion des égouts, Notre-Dame de la Merci en 2012 et La combustion humaine en 2013.
Alors, les prises de position, justement, on en parlera, puisque vous intervenez régulièrement dans le débat public, on peut dire ça comme ça.
Oui, voilà, je crois que c'est... Oui.
Mais peut-être, avant d'en venir à cette question-là, toujours un petit peu dans les présentations, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre milieu social ? Je crois que votre père est artiste, lui aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre famille, et puis peut-être même de votre enfance ?
Oui, mais une enfance qui a son sens, disons, et qui a marqué aussi qui marque toujours mon travail actuel. C'est une enfance que j'ai passée au Canada, dans la forêt, très reculée, à 2h30 de Montréal, qui était la ville la plus proche, à part certaines petites banlieues avant.
Et dans une famille... Mais vous êtes né au Canada, donc.
Voilà, exactement, au Québec, précisément.
D'accord.
Et donc, ma famille, moi, c'est mes parents sont partis quand j'avais 3 ans au Canada pour y vivre, pour y construire une sorte de range de propriété qui était très belle, qui était très perdue en fait, très grande, puisque on était au fond d'une forêt. Je pense que la sensibilité artistique de mon père, mais également la réceptivité, la sensibilité artistique de ma mère ont beaucoup contribué à mon... peut-être à ma manière d'appréhender les choses, d'appréhender le monde, aussi de savoir quoi faire d'une certaine solitude, puisque même si j'avais des amis, bien sûr, et que c'était pas un village dont on était les seuls habitants, bien au contraire, quand on est reculé comme ça, avec des températures, des conditions aussi météorologiques comme celle-là, on est forcément confronté à soi-même, peut-être qu'un peu plus que les autres enfants, et je pense qu'on apprend à gérer la solitude relative, mais l'isolement, le fait de se trouver comme ça un peu plus tranquille, et on arrive à en faire quelque chose et à mettre cette solitude à profit.
Vous étiez un enfant plutôt solitaire ?
Oui, plutôt solitaire, mais parce que ce n'est peut-être pas mon tempérament, mais les choses m'ont façonné comme ça. Ensuite, j'étais en même temps solitaire, mais en même temps très, très sociable. J'aimais beaucoup, je m'amusais beaucoup avec les autres. J'étais plutôt quelqu'un même assez populaire dans l'école. Quand j'étais dans les premières années de ma scolarité, donc je suis très sociable, mais en même temps avec des moments de solitude imposés par l'endroit ou simplement par le lieu où on habitait.
Donc c'était un endroit où peut-être des fois la route était coupée, enfin vous deviez passer des jours chez vous, c'est ce genre d'endroit-là ?
Oui, voilà, exactement, je me rappelle de la fameuse tempête de glace, je crois que c'était en 96 ou est-ce que c'était 98, je ne sais plus, enfin bref, qui avait privé le Québec d'électricité pendant plusieurs jours, et c'est ce genre de situation où les routes sont couvertes de verglas, il n'y a plus d'électricité, donc il faut bien... Eh bien, c'est pas là qu'on a les contacts les plus intenses avec le monde extérieur, donc c'est important, déjà, pour mes parents, c'était important qu'ils s'entendent bien, parce qu'on ne peut pas aller, tout d'un coup pleurer au bistrot, ou bien aller voir ses copains, ou aller suivre un éternel cours de développement personnel pour essayer de se remettre d'aplomb, parce qu'on se sent lésé, donc on est obligé de s'entendre et de faire avec. Et puis, pour un enfant, c'est pareil, on est obligé, la petite crise où on sort boudé, c'est bien, mais quand il fait moins 50, c'est un peu plus difficile.
Tout à fait. Je crois que vous évoquez, je crois que c'est dans votre premier roman, il y a des évocations de l'endroit où vous êtes né, c'est bien ça ?
Oui, voilà, c'est dans le deuxième, en fait. Le deuxième. Qui passe, en fait, à Notre-Dame-de-la-Merci, c'était le village de Notre-Dame-de-la-Merci, c'est également le titre du livre. Et je l'ai repris plutôt à la manière d'un décor. Donc, c'est pas la belle évocation de l'enfance, très. Où on essaye d'être le plus impartial possible pour vraiment faire vivre une ambiance. Là, j'ai pris le village comme une sorte de décor de théâtre. Donc, en y mettant des éléments tragiques qui n'étaient peut-être pas à l'origine, en gommant quelques éléments aussi chaleureux qui n'étaient pas à l'origine, puisque dans le roman, j'essaie vraiment de créer un huis clos dans une sorte de tempête de neige.
D'accord. Donc, Notre-Dame de la Merci, c'est un lieu qui existe.
Oui, voilà, ça existe. C'est 500 habitants environ, peut-être un peu plus maintenant. C'est situé dans la Naudière, la région de la Naudière, pas très loin de Saint-Michel-des-Saints.
D'accord. Ça peut rappeler peut-être certaines ambiances suisses. Je pense à des coins du Valais ou même du Jura qui sont aussi assez, à la fois assez éloignés et puis un climat parfois assez aride.
Oui, voilà, je crois. D'ailleurs, je sais que quand on est rentré en Suisse, mes parents me disaient souvent quand on arrivait à la vallée de Joux, mais tiens, on se croirait au Québec. Les arbres, le lac, après c'est un petit peu différent au niveau des gens, mais c'est quand même, il y a quand même cette oui, je pense que c'est ça peut tout à fait rappeler ce genre de situation.
Tout à fait. Et puis votre père, lui, est dans la musique, hein, c'est bien ça.
Il est artiste peintre.
Peintre.
Voilà, exactement. D'accord. Il dessine en fait au crayon, donc c'est voilà, exactement. Il a fait Didier Mouron, donc il a fait. J'ai aussi suivi, parce que non seulement on habitait dans un endroit assez fou, mais en plus il avait nombreuses expositions en Amérique du Nord, soit à Montréal, soit à New York. Donc c'est vrai que c'est aussi des choses dont j'ai pu profiter, puisque forcément il m'embarquait en général avec, et j'avais la chance de découvrir des univers, rencontrer des gens aussi que j'aurais peut-être pas fait si j'avais pas eu des parents comme ça.
Est-ce que vous lui en avez parlé quand vous avez commencé à écrire, ou c'est quelque chose qu'il a découvert quand vous avez publié la première fois? Est-ce que c'est quelque chose que dont vous avez parlé ensemble?
Oui, j'en ai parlé assez vite en fait. Je me suis toujours senti assez à l'aise. J'ai évoqué la chose. C'est même lui qui me disait tu seras certainement écrivain, tu vas publier. Moi, peut-être avec une espèce de pudeur, je disais mais c'est vraiment quelque chose que je fais comme ça. C'est plutôt pour me passer le temps. Et puis je crois qu'il a très vite, et ma mère aussi d'ailleurs, mes parents ont très vite cru en moi, m'ont très vite. Ça a peut-être été cause que j'ai eu l'envie de publier assez rapidement finalement. C'est vrai que quand on est encouragé, quand on est soutenu, et il y a mes parents, mais il y a aussi beaucoup d'amis, quand on est comme ça poussé, on a on se sent aussi également en même temps poussé des ailes. Donc on a davantage envie de continuer que si tout le monde s'en fout et nous regarde en disant oui, bon, là, il passera au petit.
Puis ça, c'est vers quel âge qu'ils vous ont poussé comme ça?
Je crois que dès que j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire vers 15-16 ans, ils ont été là. Alors, je leur montrais pas tout parce qu'il y avait des choses déjà très personnelles. Et puis, il y avait en plus, j'ai pas envie non plus de leur montrer aujourd'hui. Maintenant, ils le lisent quand il est terminé. Mais je leur faisais lire certaines choses et on mettait en page parfois avec mon père des recueils de poèmes, des recueils de courts textes. Ensuite, je crois qu'on... Je les faisais circuler après un peu dans la famille, donc c'est quelque chose qu'ils ont vite suivi en fait dès le début.
Vous les avez gardés ces premiers recueils?
Moi pas, mais j'ai été boire un verre chez un ami l'autre jour qui au milieu de la nuit tout d'un coup est arrivé avec une pile de textes. Je me demandais ce que c'était. C'était en fait tous mes anciens textes qu'il avait gardés, que je lui avais donnés depuis que j'ai 15 ou 16 ans. Donc c'était assez, ça m'a fait assez bizarre de les revoir.
Et puis vous en êtes, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui?
C'est assez marrant.
Vous les avez relus?
Ouais, heureusement il y a eu une évolution. Non, c'est assez marrant. Il y en a encore peut-être un peu plus tardif, mais que j'ai écrit quand j'avais 18 ans, comme ça, que je n'en nie pas du tout, qui sont à quelques améliorations près, seraient peut-être montrables, je ne dis pas publiables, mais en tout cas montrables aujourd'hui.
Alors 15-16 ans, est-ce qu'il y a un lien avec l'adolescence? Est-ce que ça correspond à un moment charnière de votre vie, cette envie d'écrire?
Oui, je pense. Déjà, c'est vers 14-15 ans où je me suis vraiment mis à lire régulièrement et de manière vraiment très suivie, de manière presque addictive. Donc ça, je pense que ça a été aussi une des causes. Et il y a aussi le fait que j'avais fait une année de gymnase là, à la Cité quand j'avais 15 ans, et puis j'ai raté, et ensuite... Mes parents voulaient partir au Canada et puis ensuite aux États-Unis. Et donc, je les ai suivis et ils ont acheté une sorte de caravane comme ça dans laquelle on a voyagé pendant presque une année. Donc, Ah ouais. Parfois c'était un peu, c'était bien parce que bon, j'ai aussi de la famille, des cousins au Canada, aux États-Unis, donc c'était très sympathique. Mais il y a quand même des moments, et c'était des paysages magnifiques, mais il y a des moments où je me sentais un peu seul, ou c'était en plus l'adolescence, où j'avais, bon, c'était vivre avec ses parents dans une caravane, c'est pas facile, même si la caravane est grande, donc j'avais, où j'avais besoin de m'isoler. Et l'écriture était était l'une des manières avec surtout l'écriture en fait avec la lecture, mais une des manières de m'évader, de faire quelque chose pour moi de mon côté, et aussi ensuite de peut-être de partager ces textes avec d'autres, avec des amis. Donc c'était aussi une manière de tisser des liens avec de continuer à entretenir des liens avec des gens qui étaient au pays.
D'accord, tout à fait. Et puis vous avez fait des études de lettres.
Oui, voilà, je l'ai fait encore d'ailleurs de manière.
Vous les faites encore?
Oui, je me suis réinscrit, j'ai terminé mon bachelor, donc la partie là je me suis réinscrit pour mon master que je vais faire sur ces prochaines années, mais je le fais toujours avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs, avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment c'est quelque chose que j'apprécie, j'aime bien l'ambiance d'ailleurs de l'université, je trouve que ça me détend énormément.
D'accord, même en période d'examen?
Oui, même en période d'examen, parce que disons, quand on compare à une sortie de livre ou à une interview, on peut pas refaire. Si on, par exemple, on se rate complètement, bon, il y a peut-être quelques prises si on n'est pas en direct, mais en général, c'est raté. À une sortie de livre, si le livre est mauvais, bon, on va pas le réécrire deux ans plus tard et le ressortir avec un autre titre. Enfin, on peut, mais disons, c'est généralement assez mal vu. Tandis qu'un examen, il y a toujours des accommodements, et puis on est prêt, et puis c'est quelque chose de. Alors, je dis pas que c'est la période où je suis le plus détendu, où j'arrive en souriant et en tongs et en chemise à fleurs dans les locaux où je dois me faire examiner, mais disons, c'est pas un stress comparable à celui d'une sortie de livre.
D'accord. Et puis les lettres, c'est une filière logique pour vous. Est-ce que ça allait de soi d'aller étudier les lettres?
J'ai pas toujours voulu étudier les lettres. J'avais quelques doutes. Et puis ensuite, j'ai fait une année sabbatique après le gymnase et c'est devenu de plus en plus. C'est devenu de plus en plus logique en fait. Et je regrette pas du tout parce que je pense que ça m'a beaucoup apporté. Alors on décrit souvent l'apport en disant mais oui c'est les lettres, on n'a pas besoin de ça pour être écrivain, ce qui est vrai d'ailleurs et en effet avoir un master en lettres ne vous donne pas du tout des compétences particulières dans le domaine de l'écriture. En revanche,
oui, le talent ne s'enseigne pas quand même.
Non, voilà, je pense que ça s'enseigne pas, ou ça peut s'enseigner peut-être.
Peut-être en partie.
Mais disons, en tout cas, ça peut. Il y a des choses qui peuvent se transmettre. Je pense surtout dans un rapport entre un écrivain et un autre individu. Là, je pense qu'il y a vraiment des choses qui peuvent être transmises. Mais disons, dans le cadre d'un cours universitaire, je pense pas que c'est quelqu'un qui aurait suivi tous les séminaires sur la littérature au 19e siècle qui sera forcément un meilleur écrivain que quelqu'un qui a fait une formation en économie ou en médecine. Enfin, ça je pense que ça a vraiment pas de rapport. Par contre, ça donne un certain bagage aussi. Ça permet de découvrir des recoins de l'histoire littéraire qu'on aurait peut-être négligé sans ça. Ça permet de mettre en perspective aussi ses propres textes en se disant, ben voilà, est-ce que je suis finalement, est-ce que c'est vraiment nouveau ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est dans la continuité? Dans quelle continuité? Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je décris pas du tout, et l'ambiance de l'université et le contenu des études me plaisent assez finalement.
Ouais, on dit des fois que c'est la plus belle période de la vie, hein, l'université. Je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, je sais pas.
Enfin, vous n'en êtes pas encore sorti, donc.
J'ai vécu l'autre partie en fait.
C'est ça.
Pour me prononcer, mais disons que je sais pas, ça dépend après si on s'oriente. Il y a cette je sais pas si vous y faisiez allusion, mais dans le dernier roman de Houellebecq, il y a cette fameuse phrase de clôture de premier paragraphe où il dit la première partie de ma vie, donc après mes études, était déjà derrière moi. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup d'amis avec qui j'ai parlé, qui sont un peu plus âgés que moi, qui ont commencé à travailler, qui travaillaient déjà avant, et sans doute plus, si on prend l'acceptation du terme dans un sens large, mais disons, sont mis sur ce qu'on a coutume d'appeler le marché du travail. Et c'est vrai que j'ai l'impression, en discutant avec eux, que les choses sont pas si roses et que c'était peut-être en effet mieux avant.
D'accord. Alors, vous êtes volontiers provocateur, est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, disons, je le fais pas forcément toujours exprès. Hein, c'est des choses qui. Je donne mon avis assez facilement. Disons, si j'ai un avis, j'essaye aussi, je m'abstiens aussi de le donner quand je n'en ai pas ou quand j'ai pas été capable de m'en forger un. Mais c'est vrai que quand j'ai une opinion, je la donne volontiers avec une certaine force, quitte ensuite, si je me rends compte 6 mois plus tard que j'ai eu tort, eh bien je le dis et je ne rougis pas du tout d'admettre mes torts. Mm-hmm.
Ça a notamment été le cas dans votre troisième roman, hein, dont on reparlera peut-être dans quelques instants. Mais peut-être avant ça, est-ce que pour vous, un écrivain doit être provocateur? Est-ce qu'un écrivain doit déranger?
Je pense que c'est... En tout cas, je pense vraiment qu'il doit mettre le... Il doit en tout cas pas avoir peur de le faire. Je pense que si un écrivain qui aurait peur de déranger, ce serait pas vraiment un écrivain. Je pense qu'il n'y a pas besoin forcément que chaque livre soit une nouvelle... provocation, soit quelque chose d'extrêmement sulfureux. D'ailleurs, c'est pas du tout le cas de mes livres. Je pense que dans Notre-Dame de la Merci, il n'y a pas vraiment une provocation. Il n'y a pas une, au niveau, en tout cas, au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc, c'est pas quelque chose où je me dis à chaque livre, il faut être provocant, il faut mettre le doigt sur quelque chose qui fait mal. Mais je pense que c'est important, en tout cas, de ne pas avoir peur, de ne pas mettre des considérations personnelles telles que les intérêts qu'on se serait peut-être ménagé dans un certain milieu littéraire ou alors la faveur qu'on aurait eue auprès d'un certain public, pas avoir peur de remettre ça en question. Sinon, on fait pas vraiment un travail d'écrivain, on fait plutôt un travail de marchand de livres ou de marchand de livres au sens péjoratif du terme.
Même si une forme de provocation peut aussi assurer une certaine visibilité, c'est on peut imaginer un Houellebecq qui pense d'abord à provoquer et puis qui ensuite réfléchit à la manière de le faire et puis au thème de son roman, hein. Soumission est quand même, quoi qu'on en dise, probablement une grosse provocation. On peut aussi imaginer que la provocation, ça peut être une forme finalement de stratégie marketing en quelque sorte.
Oui, alors peut-être que ça peut être aussi une stratégie marketing. C'est vrai que ça se vend bien. En même temps, pas toutes les provocations. C'est-à-dire que certaines provocations rapportent quand même plus que d'autres. Et puis surtout, je pense que la provocation pour la provocation, c'est aussi inutile que l'art pour l'art finalement. La provocation, à mon sens, est justifiée si elle met si elle est provocation parce qu'elle explore peut-être un territoire qui a été déjà peu exploré ou qu'elle met, comme dans le cas d'Houellebecq, elle propose une équation qui a peut-être été qui a peut-être été faite dans certains PMU mais encore sur la scène littéraire n'a pas été explorée, sur cette politique fiction avec l'arrivée au pouvoir d'un parti islamiste. Donc ça, c'est quelque chose qui était nouveau et qui manquait peut-être dans le paysage littéraire.
Avec l'actualité, bien sûr, qui lui a donné un retentissement considérable, probablement involontaire. Je pense pas qu'il avait prévu que les choses allaient se passer de cette manière-là, mais ça n'enlève certainement pas les qualités du roman. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé d'ailleurs de ce roman de Michel Houellebecq?
Mais je l'ai bien aimé vraiment. Je partais un petit peu défiant. J'avais essayé de m'abstenir de lire toute critique. Y compris la vôtre, d'ailleurs, avant de partir, genre, j'ai été le premier jour, dès le matin, chercher mon exemplaire en me disant, comme ça, moi, on n'aura pas l'occasion de me polluer ma lecture par toutes sortes de commentaires plus ou moins éclairés. Donc, j'ai commencé à lire et je l'ai bien aimé. À mon avis, il n'est peut-être pas aussi réussi que le précédent, que j'avais beaucoup apprécié, le territoire, peut-être pas aussi réussi que les particules élémentaires. Mais je pense qu'il se place un étage en dessus qu'un plateforme, par exemple, que j'ai toujours trouvé un peu plus bâclé, un peu plus long, un peu.
Ouais, tout à fait.
Il a pour lui l'efficacité, quelque chose d'assez drôle, d'assez court, et puis de bien écrit pour plus le premier, donc j'ai trouvé très, très réussi. Et même, je trouve que la vision qui. Déjà, il y a quelque chose que vous avez relevé dans votre critique, que très peu de gens ont relevé, c'est. Sa réflexion sur l'écriture, sur la littérature décadente du 19e siècle, sur l'islamisme, qui à mon avis, si on oublie ça en disant mais c'est qu'une polémique, Houellebecq nous parle des musulmans, je crois que Houellebecq nous parle beaucoup moins des musulmans que de l'islamisme.
Tout à fait, absolument.
Je pense que c'est vraiment c'est fondamental de comprendre cette idée du déclin, de décadence, dont l'islamisme était obsédé par cette idée-là, d'une décadence centenaire, comme ça, qui viendrait frapper le. Qui viendrait frapper l'Europe toutes les fins de siècle. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que Houellebecq a vraiment fait avec brio. Ses réflexions sur la littérature sont toujours très pertinentes et également sur les rapports humains, sur les rapports entre, entre un homme et une femme, sur les couples, comment finissent ces couples, qui s'essayent, qui tentent, qui biaisent, qui baisent, et qui finissent par, par se dissoudre, complètement dévastés.
Ouais, tout à fait.
Tout ça m'a plu. Et pour en venir au côté sulfureux, puisque là on est encore dans le Welbeck, si j'ose dire, traditionnel, et encore peu problématique, même si à mon avis ce sont des questions plus problématiques que celles de savoir quel régime va accéder au pouvoir en France. Mais moi, j'ai pas été choqué. Je pensais que, disons, en ayant lu les critiques, ceux qui disaient qu'ils avaient envie de gerber, d'hurler, de se rouler par terre, j'ai été même étonné. En fait, j'ai trouvé que jamais Welbeck avait été aussi doux, aussi compréhensif, aussi tendre même avec la religion musulmane. Et
ouais, je suis d'accord avec vous. Je crois que c'est un livre qui est, qu'on peut difficilement taxer d'islamophobe. Hein. Je crois que la force aussi de Welbeck, c'est cette espèce d'ambiguïté. On a l'impression que ce nouveau régime, finalement, il est presque souhaitable. Hein, que c'est finalement quelque chose qui se passe de manière très douce.
Oui, voilà, exactement.
Il présente comme ça les banlieues de manière apaisée. Alors, c'est un régime qui est un petit peu autoritaire, mais un autoritarisme doux et finalement assez souhaitable. Tout à fait.
Assez tolérant, même plus tolérant en fait avec les autres confessions, puisque on verse dorénavant plus de subventions, je crois, aux églises catholiques, parce que voilà. Donc moi, c'est vrai que j'ai rien vu d'islamophobe. Au contraire, je crois que, je sais pas si Welbeck le dit dans un interview, c'est ma propre déduction, mais moi j'ai trouvé qu'il avait mieux compris l'islam, d'ailleurs mieux lu certainement aussi les textes fondamentaux avant de qu'il l'avait fait dans ses précédents romans, où là il était un peu plus expéditif et un peu plus méprisant.
Mais tout à fait.
Et surtout, disons, c'est on parle en effet d'un parti musulman qui arrive au pouvoir, mais finalement, on n'est pas comme dans le livre, par exemple, d'Éric Zemmour, où on est dans quelque chose de, ou bien dans les théories du remplacement, où on est face à une sorte d'invasion de foule et de légion comme ça, musulmanes dont les descriptions sont un peu calquées sur le modèle des envahisseurs ottomans comme ça, qui arriveraient sans visage et unis comme ça une foule compacte pour conquérir l'Europe. Ça, on a ça certainement chez Éric Zemmour, mais chez Welbeck, pas du tout, puisque finalement, c'est vraiment, il y a une... Les gens adhèrent aux valeurs qui sont proposées par le candidat musulman, et donc c'est pas un remplaçant, ça vient pas de l'extérieur, ça vient vraiment de l'intérieur, finalement, même si c'est financé par les pétromonarchies, mais c'est aussi une évolution naturelle de la société française, et c'est défini de cette manière-là. C'est vrai que ça m'a pas heurté. Et puis, surtout, c'est quelque chose de très Welbeckien, finalement, dans, au fond, la condition humaine, en particulier élémentaire, dans la possibilité d'une île, était sublimée par le clonage. Et puis, là, c'est si on veut, on trouve son repos dans une certaine forme d'islam assez modérée.
Absolument, ouais, tout à fait. Je crois que s'il s'attaque à quelque chose dans son livre, c'est plutôt à l'athéisme radical. Il me semble que c'est vraiment là qui porte le combat, qui montre qu'aujourd'hui il est de plus en plus difficile d'être radicalement athée. Et il me semble que la plus grande virulence de son propos, elle est pas contre l'islam, mais elle est plutôt contre cet athéisme militant qui n'arrive pas à répondre à la quête de sens en fait qui travaille les sociétés d'aujourd'hui.
Oui, là je pense qu'il a évolué, parce que je pense que le
tout à fait.
Welbeck des
partis. Il le dit lui-même dans un interview.
Exactement. Enfin, je pense qu'il est vraiment dans cette évolution, ce qui en fait pas d'ailleurs forcément un personnage religieux, mais je pense qu'il a accordé une nouvelle place à la religion dans son système de pensée. Et je pense que c'est une bonne évolution.
Tout à fait. Absolument. Alors, quant à Morand, on va revenir à vos publications. Donc, vous avez publié trois romans. Peut-être le troisième occupe une place un petit peu à part. Hein. Le ton est différent, peut-être un peu plus proche du pamphlet que les deux premiers. Le style aussi est un petit peu différent. Moi, je l'ai trouvé peut-être un petit peu moins travaillé, en tout cas, que le premier. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça. Quelle a été la réaction de vos lecteurs et de la critique en général après l'apparition de ce troisième roman?
C'est assez intéressant, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un clivage radical entre d'une part des journalistes qui peut-être se sont, ou des critiques littéraires qui peut-être se sont sentis un peu attaqués par ce roman, ou alors qui ne sont pas sentis attaqués mais qui l'ont un peu mis dans la catégorie, une sorte de pamphlet pour initiés comme ça, pour spécialistes. Et moi, on me disait d'ailleurs, mais ça, c'est un roman qui, c'est bien, mais ça concerne quelques lecteurs, mais ça va pas toucher, ça ne touchera pas les foules. Et contrairement aux autres, avec des thèmes peut-être plus universaux, plus, euh, plus grand public. Et finalement, c'est tout à fait le contraire. C'est que je me rends compte qu'il n'a pas passé pour, comme on dit, pour beaucoup de critiques littéraires chevronnées ou de gens qui ont une certaine expérience du milieu littéraire, mais qu'il a en revanche été adoré par des lycéens, par des gens que j'ai été le présenter dans plusieurs classes de gymnase et de collège entre Vaud et Genève. Et j'ai aussi eu des retours directement de lecteurs qui ont entre 16 et 18 ans, parfois un peu plus, et qui ont trouvé vraiment adoré cette ambiance-là, découvrir ce milieu-là, et aussi les réflexions sur les réseaux sociaux qui les ont. Donc je crois que c'est pas du tout un livre qui était justement, comme on a dit, une sorte de pamphlet pour spécialistes. Je crois que au contraire, c'est un roman qui a peut-être un de ceux qui a le plus plu au public large.
D'accord. Vous, par rapport aux deux premiers, vous le trouvez meilleur? Comment vous considérez en fait votre évolution littéraire? Est-ce que vous êtes toujours plus content de vos livres ou peut-être moins?
Exactement.
Comment ça se passe?
En général, je suis toujours mon préféré est toujours celui qui vient de sortir et ça va dans l'ordre. Mm-hmm. Je préfère La Combustion Humaine aux deux autres, même si j'ai encore de l'affection pour les deux premiers, mais je pense vraiment que La Combustion Humaine est peut-être que j'espère que l'avenir nous le dira et que d'autres gens finiront par prendre du recul sur ce livre, mais en tout cas pour ma part c'est le plus réussi. Je vais pas m'en vanter plus que qu'il m'est nécessaire, mais je pense vraiment au niveau de l'expression, c'est vrai que les choses sont un peu plus simplifiées, peut-être que les phrases sont moins ciselées, mais elles ont toujours à mon avis un rythme, il y a une exigence rythmique quand même, et puis c'est vrai que l'expression, la virtuosité a peut-être été mise au second plan pour essayer d'atteindre autre chose, quelque chose encore plus essentiel, un regard sur la société. Et je pense que le thème d'ailleurs devait être traité de manière un petit peu plus, peut-être un petit peu moins ciselé justement, pour qu'on ne soit pas dans le poème, mais dans quelque chose de vraiment une prose peut-être un peu dure et brute.
Et peut-être une prétention sociologique un peu plus évidente que dans les deux premiers aussi.
Oui, voilà, exactement. C'est vrai que je pense que je m'étais approché de l'homme sous un certain angle dans les deux premiers, et puis je pense que je me suis approché de lui de manière tout à fait différente pour La Combustion Humaine. Je crois que je l'ai saisi d'une autre manière, moins métaphysique sans doute, plus sociale, mais je pense que quoi qu'en fait, finalement, il n'y avait pas eu que... Parce que finalement, ce n'est pas que des réflexions sur le milieu littéraire qui est un exemple, qui est un terrain de jeu. C'est plutôt sur le personnage de Vaillant-Morel qui a sa complexité, qui a qui est en même temps assez universel dans sa manière d'envisager les relations, d'en souffrir, de s'en glorifier, et qui en même temps participe d'une sorte de type comme ça peu aimé dans la littérature, qui est le type de l'homme comme ça macho, peut-être légèrement raciste, un peu aigri, qui a raté les choses, mais en même temps ces ratages là sont aussi très intéressants, pas seulement parce qu'il prolifère dans le milieu littéraire, il prolifère partout ailleurs, mais justement pour cette raison là pour son extension.
Alors vous parlez de personnages, vous parlez de rythme, qu'est-ce qu'un bon roman selon vous, Quentin Mouron?
Eh bien, je pense que des personnages forts, ou en tout cas un nom pas forcément fort dans le sens où on s'en rappelle comme d'un héros, ou qu'on s'en rappelle même comme Madame Bovary par exemple, on a encore Madame Bovary en tête bien après avoir refermé le roman, ou Anna Karenine, mais des personnages simplement crédibles qui parlent.
Complexes.
Pardon ?
Des personnages complexes.
Oui, voilà, ou complexes. Oui, disons, c'est vrai qu'une certaine complexité, ça ne fait jamais de mal. Disons, si il n'y a rien de pire quand on a l'impression, peu importe que ce soit un roman à prétention réaliste ou non, hein, mais quand on a l'impression qu'on se déplace dans un espèce de décor en carton-pâte, sauf si c'est évidemment voulu par l'auteur, ou si c'est une pièce absurde, ou si c'est quelque chose où il y a une vraie démarche derrière, mais quand on a l'impression qu'on est seulement face à des espèces de types figés, comme ça, qui... on a le personnage amoureux, ensuite on a le personnage méchant, enfin c'est des choses comme ça très manichéennes où là j'ai plus
tout à fait.
Tandis qu'un bon roman, je pense qu'il y a justement n'a pas peur de la complexité, n'a pas peur de la complexité des scènes décrites aussi, n'a pas peur. Oui. Je pense qu'un bon roman, il peut y avoir des bons romans sur tous les sujets. Je pense à un sujet simplement comme la famille ou l'histoire d'une famille, comme dans Anna Karenine, et ça peut être sur quelque chose de plus complexe, de plus tapageur, comme la guerre dans Le Voyage au bout de la nuit, par exemple, ou la trilogie nordique de Céline. Donc, enfin, parce que je dis allemande, pardon. Donc, je pense qu'il y a vraiment tous les sujets sont permis, si on veut, mais c'est le romancier qui doit être à la hauteur.
Ouais, tout à fait. Avec le personnage quand même central, c'est je pense très difficile de faire un grand roman sans personnage crédible et compliqué, tourmenté peut-être.
Oui, voilà.
En tout cas, humain, en tous les cas, humain.
Je pense, voilà, oui, vraiment. Je pense qu'un personnage, si on n'a pas. On peut essayer de faire une littérature sans personnage, mais alors il faut vraiment être très fort. Et en général, ça ne donne pas grand-chose parce que malgré tout, le personnage ne porte pas seulement son propre petit mot à fermer sur lui-même. Le personnage porte avec lui une société. Le personnage amène avec lui un système de valeurs, un système de croyances, une tradition historique. Donc, ce n'est pas juste quelqu'un qu'on catapulte comme ça pour faire une réplique. Et ce n'est pas non plus juste quelque chose qu'on laisse au hasard comme ça. Je pense que le personnage a son importance et plus encore que le système ou que l'idée qu'on essaye nous de défendre. Le mieux, c'est que le personnage-là porte ce système-là et il le fera certainement avec beaucoup plus de brio qu'avec son auteur.
Comment est-ce que vous travaillez, Quentin Mouron? Quelles sont vos méthodes de travail? Quand est-ce que vous écrivez? À quel endroit? Et est-ce que vous écrivez beaucoup?
Oui, j'écris pas mal, en fait. J'aime bien, évidemment, je travaille surtout sur mon ordinateur, j'ai quelques carnets de notes, je note aussi sur mon téléphone portable quand une idée me vient avec mon ordinateur, mais c'est surtout, je travaille surtout beaucoup devant mon ordinateur. Mais ensuite, l'endroit peut varier, j'ai pas de. Alors, pour des questions de convenance, je travaille souvent dans ma chambre, chez moi. Oui. C'est aussi parce que c'est assez isolé, c'est assez tranquille, donc ça me permet de travailler tranquillement, ça me permet de pas être trop interrompu, tandis que si je vais au bistrot, bah c'est bien, mais de temps en temps, on croise quelqu'un qu'on connaît, ou alors on finit par se laisser prendre par une discussion. Donc je le fais des fois aussi, mais c'est plutôt... c'est assez rare. Ouais. Je l'ai fait aussi parfois à la bibliothèque, s'il s'agit de quelque chose qui n'est pas vraiment de l'ordre de la création, mais plutôt de la correction. C'est les dernières corrections à faire, à saisir sur un manuscrit, par exemple, je vais les faire plutôt à la bibliothèque, comme ça j'ai une concentration maximale. Mais en revanche, c'est vrai que quand j'écris, j'aime bien avoir gesticulé un peu, tout d'un coup me lever, traverser ma chambre sans raison apparente, revenir, la musique. Donc c'est des choses qu'on peut pas vraiment faire en public sous peine d'être extrêmement dérangeant. Donc je travaille assez en général seul et chez moi.
D'accord. Vous êtes plutôt un écrivain du matin ou du soir?
Les deux, mais le matin je travaille bien, l'après-midi je travaille extrêmement mal, à part pour des choses très factuelles comme des corrections ou des emails, mais le soir ça revient, donc c'est vraiment matin, soir, début de nuit, mais l'après-midi j'évite.
D'accord. Est-ce que c'est difficile d'écrire?
Oui, c'est toujours assez difficile. Ça dépend après ce qu'on écrit, il y a des choses qui font très plaisir à écrire, je pense à... C'est toujours avec plaisir que j'écris des chroniques, par exemple, ou des choses comme ça, des choses assez satiriques, ou des choses où je rigole, comme ça, où je me paye la tête de quelqu'un, ou d'une idée, ou d'un... Ça, c'est toujours assez facile, parce que c'est vrai que c'est en même temps un jeu, c'est pas gratuit, mais enfin, c'est un peu plus... On se détend, quoi, on se fait plaisir, tandis que quand c'est quelque chose de plus personnel, où il y a encore un souci de la forme, où ça doit entrer en résonance avec le reste du texte, où on a vraiment un souci de construire d'une structure qui soit un véritable édifice, là, c'est évidemment plus difficile qu'un billet parce que il faut penser à tout, chaque partie doit trouver sa place. Et là, ça devient quelque chose de difficile et parfois de vraiment très peu plaisant, très peu facile, au sens où on présente des fois l'écriture comme une espèce de vaste comme ça, explosion romantique où la plume coule toute seule. Et puis, qu'est-ce que ça fait du bien d'écrire? Qu'est-ce qu'on se fait en écrivant? Ça, c'est vrai que c'est pas vraiment.
Qu'est-ce qu'on aimerait que ça se passe comme ça, tout à fait.
Non, voilà, exactement. Mais je pense que oui. Alors ça, je pense que vous en avez fait en savoir quelque chose. Et c'est vrai que ça se passe pas comme ça. Quand même si je dois avouer que le troisième roman était peut-être le plus facile à écrire. Peut-être à cause des éléments un peu plus satiriques, justement, où c'est assez drôle finalement, même s'il y a des passages plus sérieux. Mais c'est peut-être celui que j'ai écrit le plus facilement, qui m'a pris le moins de temps, et comparé aux deux premiers où là, ça a vraiment été pénible.
Alors on l'a dit, vous intervenez aussi dans le débat public, vous écrivez, je crois, pour le Nouvelliste, le Régional, sauf erreur.
J'écris plus pour le Nouvelliste, en fait. Ils ont recentré leur, je crois, sur des thématiques un peu plus régionales, donc maintenant les anciens chroniqueurs ont été écartés, mais je travaille toujours en effet pour le Régional. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi mon blog, mon site internet.
Est-ce que vous, on sent, enfin, vous faites des chroniques politiques d'une certaine manière. Est-ce que la politique, c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous faites de la politique malgré vous, peut-être?
Peut-être malgré moi. J'ai un certain intérêt pour le débat public. J'ai un certain intérêt pour les différentes prises de position, pour ce que j'entends. C'est vrai que on m'a déjà reproché finalement de critiquer un peu tout, de toute obédience et de rien apporter finalement de concret, de ne pas apporter rien qui soit constructif, comme on dit. Moi, je pense que j'ai rien à apporter de constructif et c'est pas du tout ma prétention. Je pense, je n'opère pas non plus une destruction ou une déconstruction, comme on aime le dire aujourd'hui, mais simplement un regard, je pense, aigu, parfois violent, c'est vrai, parfois un regard agacé, irrité sur ce qui se passe en politique, mais également sur, disons, tout ce qui se passe au niveau social. Donc, je crois que mes positions d'ailleurs sont en général assez claires, je suis pas trop ambigu, mais c'est vrai que j'aime bien aussi sortir du côté très partisan, très idéologique. Finalement, on tient pour les uns et on essaye d'abattre les autres, un peu comme au football et comme ça se passe assez souvent en politique. J'essaye de rester assez ouvert et si je dois pointer des ridicules parce que j'estime que deux partis antagonistes tombent dans le même ridicule, eh bien je vais certainement pas me gêner de le dire et je pense par exemple aux notions de, on dit toujours, on parle de démagogie par exemple, on parle souvent de l'extrême droite, ce qui est exact d'ailleurs, mais souvent la gauche dans certaines positions, lors de certaines prises de certains débats, n'est pas moins démagogique. Donc si je dois parler de démagogie, c'est évident qu'observateur externe, eh bien, je vais prendre des exemples chez tout ce qui ressemblera pour moi à de la démagogie.
Absolument. Alors, vous travaillez avec Olivier Moratel, donc un éditeur bien connu des amateurs de littérature en Suisse romande. Comment vous percevez le travail avec l'éditeur? Comment ça se passe avec Olivier Moratel?
Eh bien, jusqu'alors, ça s'est très bien passé avec Olivier Moratel. On a toujours eu un très bon contact. Et non seulement un contact humain, mais aussi un contact professionnel. Olivier était quelqu'un de très disponible, surtout lors de tous les livres, hein, mais c'est vrai que pour le premier, là, j'avais vraiment particulièrement besoin d'être suivi, d'être rassuré, entre guillemets. Donc ça, il a fait ce travail-là, à la fois sur le plan psychologique et sur le plan littéraire, un travail vraiment exemplaire, avec une vraie relecture d'éditeur, un vrai travail sur le texte, où on s'est plusieurs
fois. Il l'a beaucoup amendé?
Pardon?
Est-ce qu'il l'a beaucoup modifié? Est-ce qu'il a fait des propositions?
Non, c'est-à-dire c'est-à-dire que je l'ai lu en entier, chaque texte je l'ai lu en entier, ça durait 10 heures, parfois plus, ça s'est étendu sur plusieurs jours, et au fil et à mesure de la lecture, il avait lui déjà pris des notes, et puis il me faisait des suggestions, il me disait, mais là, est-ce que t'es sûr que là, c'est pas un peu répétitif? Est-ce que t'as pas déjà parlé de ça? Et c'est moi qui tranchais en général, mais c'est toujours moi qui ai tranché, mais il m'apportait quand même son œil externe, son avis, son expérience. Et souvent, c'était des remarques pleines de bon sens qui n'étaient pas du tout castratrices, ou c'était par souci de ne pas heurter son lectorat. D'ailleurs, je pense qu'il a pris un certain risque en publiant La Combustion Humaine. Mais disons, c'était plutôt, non, au contraire, pour vraiment rendre le texte le plus parfait possible. Et ça, je le dois beaucoup pour ça.
Alors, quant à Mouron, on est encore ensemble pour quelques minutes. Vous êtes un des représentants peut-être d'une nouvelle génération d'écrivains romans. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça. On parle beaucoup d'un renouveau de la littérature en Suisse romande. Il y a bien sûr eu l'affaire Joël Dicker, si on peut dire ça comme ça, qui a montré qu'il existait beaucoup d'auteurs en Suisse romande et qui pouvaient même s'exporter. Est-ce que vous, quel regard vous portez finalement sur cette littérature contemporaine en Suisse romande? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'il y a un renouveau? Comment vous voyez les choses?
Moi, j'ai toujours de la peine à l'évaluer, je dois dire que ce renouveau, est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est finalement un concept qui a été forgé un peu artificiellement, mais qui m'arrange, puisque ça permet de multiplier des interviews et des articles dans les journaux, donc j'en tire profit. En même temps, c'est vrai qu'il y a peut-être un mouvement. C'est peut-être pas vraiment dans la littérature elle-même, parce que souvent, soit on continue soit elle se fait dans la droite ligne de ce qu'on appelait la littérature romande, soit elle s'en démarque. Mais il y a toujours eu des gens qui s'en sont démarqués. C'est plutôt peut-être dans l'élan, peut-être dans le fait qu'on se connaît quand même plus ou moins tous, qu'on a en général des bons rapports, qu'on se lit entre nous, qu'on a plutôt tendance à s'encourager qu'à se tirer dessus. Donc ça, c'est peut-être plutôt là qu'est le renouveau. C'est plutôt dans la manière qu'ont les auteurs d'appréhender le simplement leur ouais, de considérer le, leur contemporain plutôt que dans un véritable renouveau au niveau de la forme ou du fond. Là, disons, là, je pense que ça se fait, mais ça se fait des renouveaux dans le fond et dans la forme. C'est quelque chose qui est vraiment individuel. Ça concerne des auteurs en particulier, mais je ne crois pas que ça concerne vraiment des vagues comme ça d'auteurs qui seraient définies par leur appartenance, par leur âge, en fait.
On n'arriverait pas à définir peut-être un style contemporain de la littérature romande, selon vous ?
Non, en tout cas pas. Non, je vois pas vraiment, vraiment les livres. Je sais pas, entre les livres que j'ai beaucoup aimé de Florian Aiglin, celui que j'ai bien aimé aussi d'Antoine Jacquier, celui que j'ai bien aimé de Damien Murit aussi, sont trois livres quand même assez différents. J'ai vraiment de la peine.
Oui, en effet, ouais.
Trouver. Là, j'ai pris exprès trois exemples qui sont assez différents. Mais c'est vrai que j'ai de la peine à trouver un fil conducteur. À part peut-être que quand on croise les auteurs, eh bien on est assez content, on serre la main et on va éventuellement boire un verre.
Ouais, tout à fait. Est-ce que vous ressentez une forme de concurrence dans ce milieu-là ?
Je sais pas s'il y a vraiment de la concurrence. Oui, il y a forcément, parce que c'est pas de la concurrence au niveau des lecteurs, à mon avis, parce qu'on fait des choses différentes et les lecteurs sont des gens souvent quand même assez ouverts qui sont d'accord de lire plusieurs choses, de plusieurs styles différents et qui achètent plusieurs livres par année. Donc ça, c'est pas vraiment le problème. C'est plutôt au niveau médiatique, évidemment. Bah, quand quelqu'un sort, si deux personnes qui ont du succès sortent un livre en même temps, alors soit ils arrivent à gérer la chose, mais souvent il y en a un qui va finir par l'emporter, qui va monopoliser plus d'espace disponible. Donc si on dit ça à la hauteur de plusieurs, je sais pas, peut-être de 20, 30 auteurs, qui sont un peu plus sans doute d'ailleurs, qui sortent chacun leur livre à la rentrée littéraire, bah, enfin en Suisse, c'est évidemment, il y a une concurrence parce que la place dans les médias est limitée. La place pour avoir un article dans le temps, par exemple, il y a toujours le gros article et puis les plus petits. Donc comment il y a qu'un gros article par, je sais pas combien il y en a, peut-être par jour. Donc il faut pouvoir être dans celui-là et pas dans les autres. Donc il y a de toute façon une concurrence, je dirais, mais qui est pas malsaine à mon avis. Moi, je pense que c'est normal de ressentir une concurrence, une certaine jalousie. Et à mon avis, ça participe à l'émulation. C'est plutôt une bonne chose. Tant qu'elle est pas maladive, elle l'est malheureusement parfois. C'est des choses que j'ai ressenties. Dès mes premiers
pas. Comme dans tout milieu, j'imagine.
Oui, voilà, je pense, oui, ça c'est de toute façon. Je pense qu'il y a toujours la haine contre celui qui a réussi finalement. Et donc, certaines fois, cette rancœur est justifiée. On se dit, il a eu plus de chance à la base que nous. Des fois, non, c'est peut-être juste nous qui avons laissé passer notre chance.
Tout à fait. Quels sont vos projets, Quentin Mouron ? Est-ce que vous écrivez en ce moment ?
Oui, là, je vais bientôt terminer un livre. Je suis encore en tractation et pour l'édition et pour la date. En fait, rien n'est encore sûr. Donc là,
D'accord.
Les possibilités sont ouvertes, mais disons, le livre est bientôt terminé.
Alors, sans en dire trop, est-ce que vous pouvez quand même nous en dire un ou deux mots de ce prochain livre, sans trop en révéler,
alors,
bien sûr.
Un ou deux mots, oui, je vais en dire un ou deux mots. Je pense que c'est déjà un retour en territoire nord-américain, c'est déjà un premier.
D'accord.
Et puis, j'ai pour l'instant fait des livres, en tout cas les deux derniers livres étaient plutôt dans des espaces confinés, avec quelques personnages seulement, de manière comme ça très... Oui, vraiment... presque une ambiance de boudoir, comme ça, de boudoir littéraire, de boudoir tragique parfois, mais une ambiance intime. Là, ça sera quelque chose de beaucoup plus ouvert, avec beaucoup plus de personnages d'action, quelque chose qui est presque de l'ordre... on va vraiment être dans quelque chose de qui bouge un peu plus.
Plus peut-être du côté du thriller, même ?
Oui, on n'en est pas très loin. Moi, je ne suis pas un grand lecteur de ce genre de livre, donc j'ai de la peine à fixer les jalons et à me dire là, j'y suis pas, mais on s'approche de quelque chose, ouais.
D'accord. Et ce serait, vous avez déjà peut-être une idée de. C'est trop tôt pour évoquer une éventuelle date ?
C'est encore un peu tôt. Là, oui, je pense que c'est vraiment trop tôt. Il n'y a rien qui est encore, malheureusement, qui est vérifié. Mais je me réjouis d'en savoir plus, je dois dire, et surtout, je me réjouis de le faire paraître.
D'accord. On va bientôt se quitter. Peut-être avant de se quitter précisément, est-ce que vous avez un ou deux livres que vous pourriez conseiller à nos auditeurs, des livres qui vous ont marqué, que ce soit des livres qui sont sortis récemment ou des livres beaucoup plus anciens ?
Dans ceux qui sont sortis récemment, on a parlé du Houellebecq. Alors j'encourage en effet les gens à le lire et surtout je les encourage à se taire tant qu'ils ne l'auront pas lu.
Après, ça c'est important.
Les réseaux sociaux. Et sinon. Bah, j'ai repris il n'y a pas très longtemps un texte que j'aime beaucoup, qui est le Après l'histoire de Philippe Muret, que j'apprécie vraiment. Je trouve que c'est très drôle déjà, c'est très triolé, c'est très agressif aussi, et ironique parfois, presque. Mais c'est un texte que je pense vaut la peine d'être lu, particulièrement en cette période. Et qui pourrait faire un peu plus classique aussi, je me suis aventuré pour la première fois récemment dans le mastodonte qui est Guerre et Paix. Et suis ressorti vraiment enchanté, bouleversé. C'est une lecture que je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être quelque chose d'un peu long, un peu chiant. Ça l'est par moment, mais particulièrement le deuxième tome, enfin la deuxième partie, je dirais la dernière partie est vraiment magnifique.
Très bien. Quant à moi, on remercie beaucoup sur ces belles paroles. On se réjouit de découvrir prochainement ou assez prochainement, en tout cas, votre prochain livre à paraître.
Ben, merci. Cette interview, ça m'a fait très plaisir de répondre à vos questions, et puis d'autant plus que parcourir votre blog est toujours un plaisir.
Ben, merci. C'est réciproque. Et puis à bientôt. Merci. Bonne fin de journée.
À vous aussi.
C'était le deuxième épisode de Lettres romandes, un podcast proposé par Julien Sansonnens. Merci à Quentin Mouron. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes ou nous retrouver sur lettresromandes.ch.